la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Je suis en direct du Carré d'Art, du Centre de documentation au niveau -1, et nous écoutons Emmanuel Astoron, puis Sylvain Fraisse, lors de la résidence d'artiste. Bonjour Emmanuela.
Bonjour.
Donc, vous avez organisé les résidences d'artistes, et là, c'est la 6e, et vous êtes face à Sylvain Fraisse. La résidence a commencé en avril, nous sommes au mois de mai. Il y a déjà une première, restitution.
Une rencontre.
Il y en a une deuxième le 25 juin, et le rendu, ça sera fin à l'automne.
Voilà. En octobre, ouais.
Sylvain est un travailleur acharné, j'ai l'impression.
Il travaille très sérieusement et très très concentré, comme tout artiste qui fait des recherches, comme toute personne qui fait des recherches.
Alors vous me disiez que chaque artiste a sa façon de procéder. Alors quel est votre rôle, vous, Emmanuela?
Alors moi je suis là, c'est important quand même que l'artiste sache que je suis quand même présente et que je suis disponible pour l'aider à tout moment. Ça dépend les demandes, les besoins. Et donc, moi, je peux suggérer quelques lectures, quelques livres en lien avec ce qu'il me dit de ses découvertes, de ses réflexions. Et donc, ça permet de compléter, par des documents que lui ne connaissait pas. Et inversement aussi, lui suggère d'autres documents ou la voix sur certains artistes que nous n'avons pas du tout dans le fond documentaire. Donc, ça permet aussi d'enrichir avec des documents très précieux, le fond.
Donc vous avez tous les livres en tête ou vous avez référence au catalogue?
Il y a certains livres qu'on connaît maintenant, mais sinon, oui, je me réfère aussi au catalogue en ligne, bien sûr.
C'est vrai que ce centre de documentation, vous me le dites depuis 6 ans qu'on fait les émissions, il n'est peut-être pas encore assez connu. Donc, peu à peu, avec ses résidences...
Voilà, c'est ça. Alors, c'est vraiment un fonds spécialisé, donc il y a vraiment tout le public qui peut venir, c'est pas réservé qu'à certains inscrits. C'est un fonds de plus de 25 000 documents référencés sur l'art contemporain et avec des typologies différentes. On a des monographies d'artistes, des catalogues d'exposition collective, des catalogues de biennale, des essais et des livres d'artistes. Il y a vraiment beaucoup de choses et donc c'est vrai que ces résidences-là permettent de faire découvrir le fond et le lieu à des personnes qui ne le connaissent pas du tout.
Et puis les rencontres, c'est important parce que c'est souvent très très plein, la salle est bondée, donc il y a toujours cette curiosité de comprendre comment un artiste fonctionne, si c'est possible, parce que c'est parfois compliqué, parce qu'il faut que l'artiste il s'exprime par ses œuvres, mais là il faut qu'il s'exprime par la parole.
Oh, oui. Donc. C'est des moments effectivement très rares parce que c'est pas tout le temps qu'on peut pouvoir échanger avec un artiste. Et là, c'est vraiment aussi des rencontres. Là, pour Sylvain Fraisse, on a vraiment fait des rencontres de résidence. On avait fait ça avec Anna Miscari, mais là, Sylvain tenait vraiment à faire 2 rendez-vous avec le public pendant la résidence pour vraiment que le public comprenne le déroulé d'une résidence. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que l'artiste va rechercher? Qu'est-ce qu'il va trouver? Quel chemin il va prendre? Quelle erreur il va faire? Quel doute il va avoir? C'est tous ces coulisses-là,
qu'on n'imagine pas.
qui ne se voient pas. C'est pas formalisé. Et donc, les résidences d'artistes et les rencontres avec artistes qu'on organise sont là pour montrer ça, pour montrer ce qui ne se voit pas.
Ouais. C'est une très, très belle expérience. Et on va maintenant parler avec Sylvain Fraisse, mais avant, pour faire un peu l'introduction ou la transition, on va écouter une des musiques qu'a choisie Sylvain Fraisse et nous l'expliquerons après.
Thank you.
Alors, sur Radio Alliance Plus, après Manu et Malas Thoron, nous avons la chance d'être avec Sylvain Fraisse. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, cette musique, puisque j'ai assisté à la première rencontre due au public, et vous avez parlé beaucoup du son, vous êtes artiste et aussi musicien. Alors, pourquoi cette musique ?
Parce qu'en fait, c'était un musicien et un artiste contemporain californien qui s'appelle Steve Rodden, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et qui a fait tout un travail autour des archives de Walter Benjamin et qui a composé un morceau à partir des ratures qu'il y a dans ses carnets. Donc, c'est un morceau qui s'appelle Striation et qui est... C'est un artiste dont je me sens proche dans la manière d'envisager les choses, donc, et qui n'est pas hyper connu, quoi, en fait. C'est un peu un artiste pour artiste.
C'est une petite niche musicale. Alors, lors de la rencontre d'il y a quelques jours, vous avez beaucoup parlé justement de son, et ce n'était pas évident chez vous, alors que vous êtes musicien. Donc, en fait, vous avez passé un certain nombre d'années à essayer de complémentariser, de relier en fait votre technique, je dirais, picturale à, je ne sais pas si on va dire la technique du son, mais le son est de plus en plus présent et vous êtes heureux en fait de pouvoir associer le son maintenant à votre travail.
Oui, ouais, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Alors le son était présent formellement parce que j'ai quand même un travail qui se nourrit beaucoup de tout ce qui est post-punk, de tout ce qui est musique expérimentale. Donc, en fait, on le voyait parce que je faisais souvent... Il y avait souvent des références, notamment... J'ai fait pas mal de travail autour de Kurt Cobain, autour de Nirvana, autour de Joy Division. Donc, on le voyait, en fait, même dans mon esthétique, quoi, qui a à voir avec ces années-là. Mais...
Et vous êtes content d'avoir réussi à...
Petit à petit, les choses se sont... Ça a été lent. Après, c'était pas une volonté forcenée, quoi. Ouais. Je ne me suis pas dit, il faut absolument que le son rentre. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement, en fait. Et j'en suis content. Mais c'était pas ça... Voilà, il a fallu du temps, et il a fallu des déclics, et notamment certaines contraintes qui ont fait certaines propositions pour des œuvres in situ, où du coup le son a été la réponse appropriée et a fait que j'ai pu un peu...
Oui, vous parliez de la fac de médecine, voilà, où vous ne pouviez ni peindre, ni accrocher, ni à Montpellier. Mais est-ce que dans votre formation, on va revenir au début, vous avez toujours voulu être, je vais dire, dans le domaine artistique, vous avez fait les Beaux-Arts?
J'ai fait les Beaux-Arts de Toulouse.
Et est-ce qu'aux Beaux-Arts, vous aviez le son? Parce que maintenant, les Beaux-Arts se sont très diversifiés. Hein. Peut-être que, vous n'êtes pas vieux, hein, mais il y a quelques années, on diversifiait moins, peut-être?
On avait... moi, je suis rentré aux Beaux-Arts en 2001. C'était une période où la vidéo était très, très prisée.
Ouais.
On était dans... Donc, il y avait vraiment un super studio vidéo et tout ça. Donc, qui dit vidéo, il y avait forcément un petit peu de son. Mais il n'y avait pas... Le son n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui, même si c'est quand même, ça reste quelque chose d'assez marginal dans l'art contemporain. Il y a Henri Salla qui a beaucoup démocratisé ça, mais ça reste un vidéaste.
Et vous définissez comment, après toutes ces études, après ces années de travail, vous définissez, donc vous n'êtes pas un vidéaste?
Non, je suis artiste.
Mais quel est votre support, le plus... Je dirais pas le plus spontané, parce qu'on travaille, on recherche, mais celui que vous préférez.
Le médium.
Oui.
Le médium, ouais. Bon, moi, la gravure, c'est quelque chose d'important, oui, dans mon parcours, quoi, parce que c'est un médium qui a pris beaucoup de place, quoi. Mais pour ce que ça dit d'une temporalité des images, en fait. Mais je suis pas graveur. Donc, voilà, je fais de la gravure, mais des graveurs, j'en connais, je suis pas graveur. Parce que j'ai développé une technique de gravure sur plexi, donc qui n'utilise pas d'acide, qui n'utilise pas de cuivre, de produits très onéreux. Ça reste une dérivée du pétrole, hein, le plexi. Et c'est pas pour des raisons, je veux pas passer pour un truc écologique. mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours eu dans mon travail, j'ai toujours privilégié une économie de moyens et des choses assez do it yourself, très simples. Qui viennent aussi peut-être de mon passé de musicienne, de toute cette scène où on a l'habitude de faire avec peu. Et c'est quelque chose qui se retrouve dans mon travail. Et qui,
oui, c'est toujours très, je vais dire épuré, mais je veux dire, on n'est pas envahi par plein de choses, en fait.
Ouais, il y a une forme de minimalisme.
Mais vous avez dit, lors de la rencontre, et ça m'avait beaucoup marqué, je l'ai pris en note d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de similitudes entre la gravure et le vinyle, et le disque vinyle. Donc, vous voyez, vous avez
et
toujours...
Et le son, en général.
Oui, vous avez toujours rapproché, sans le savoir, je veux dire, les deux. Mmh. Alors, la résidence, elle dure 6 mois. Le rendu sera 3. 3 mois. Oh, mais pourquoi je disais 6 mois?
Jusqu'à fin juin.
Ah bon. Ah, c'est parce que j'allais moi jusqu'en octobre, voilà.
Alors, ceci dit, oui, c'est pas faux.
Parce que vous continuez forcément.
Ouais, parce que moi, j'ai avoir un temps de production.
Vous continuez de travailler, donc voilà. Pendant.
Mais sur place, c'est 3 mois. Et après, il y a effectivement un temps de pause, mais aussi de réflexion et production.
Si Sylvain veut revenir entre temps, je pense qu'il aura le droit.
Mais bien sûr. Bien évidemment. Quand il veut.
Parce que. Alors, vous prenez en note sur vos petits carnets. Vous photocopiez vos carnets pour faire des montages. Et j'aimerais qu'on revienne justement sur ce côté intellectuel. Vous m'avez dit, j'ai pas d'inspiration. Je cherche. Je mets en forme. Vous aimez ce travail, en fait?
Moi, le travail en amont des pièces, c'est ce que je préfère. Ouais. C'est le travail où je suis le plus, qui me nourrit le plus, quoi, en fait. Après, il faut produire des pièces et moi, dans mon rapport à la production, je suis dans quelque chose d'assez ascétique aussi. Enfin, voilà, c'est sur des travaux long cours, comme les grosses séries de gravures ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très ouvrier. Il y a quelque chose d'un peu du moins de copiste, quoi. Voilà, donc, quand je produis, c'est sur du temps long, sur des pièces ça peut me prendre beaucoup de temps. Mais, j'arrive à les faire et je sais pourquoi je les fais, parce qu'il y a eu ce travail avant.
Oui.
Et qu'il y a un moment où j'ai envie de les voir.
Mais à la limite, vous ne produiriez pas, ça ne vous dérangerait pas?
Je ne crois pas.
C'est étonnant tout de même. Voilà. C'est étonnant. Et en fait, vous le faites pour le public ou vous le faites aussi, je dirais, pour des raisons matérielles? Il faut produire, il faut se faire connaître.
Je le fais parce que j'ai envie de les voir.
Tout de même.
Mais ça, c'est grâce à toutes les recherches qu'il fait en amont. C'est ça qui est révélé, du coup, par cette résidence.
Ouais. Est-ce que vous arrivez à être étonné de ce que vous produisez à la fin? Entre là, je parle de la résidence, mais entre le premier jour où vous avez mis les pieds là au centre de documentation et ce que vous allez fournir en octobre, est-ce que vous arrivez à vous étonner vous-même?
Je c'est pas exactement le truc, je suis pas étonné de moi-même, mais en règle générale, la question des résidences, c'est des choses qui sont hyper particulières parce que, comme un peu pour des pièces in situ ou des choses comme ça, c'est qu'on est obligé de trouver des solutions à des questions qu'on ne se serait pas posées si on n'avait pas fait ça. Donc, en fait, l'étonnement, entre guillemets, le pas de côté, il vient de là, en fait.
En fait, c'est une stimulation, la résidence.
Ouais. Oui, et puis
c'est ça que vous voulez faire aussi, Emmanuel. Hein?
Et c'est une manière de sortir de sa zone de confort pour nous. Et du coup, ça nous...
Ça vous oblige à aller voir un peu ailleurs.
Et ça sort de l'atelier. Ça nous sort de l'atelier un peu. Et ça nous...
Ça régénère un peu.
Ouais, ça régénère. Et puis ça met de la contrainte. Et ça, c'est quand même une chose hyper importante. Quoi. Parce que sinon, c'est comme quand on ouvre un logiciel d'image. On a tellement de possibilités qu'on ne sait plus. Qu'on va partir dans tous les sens. Et on ne sait plus ce qu'on voulait faire à la base.
Un fil directeur, vos petits carnets, en fait, pour prendre des notes. Et là, le travail de maturation, de classement dans votre tête, il se fait comme ça à n'importe quel moment, quoi. Je veux dire, il faut que vous vous dites, bon, allez, là, je réfléchis, je mets en forme.
Ça se fait tout le temps.
Ouais. Ouais. Ça doit être surprenant, Emmanuela, de voir travailler un artiste.
C'est très intéressant. non, c'est génial. On voit vraiment l'évolution de la pensée. Et puis, voilà, il y a parfois... Des découvertes. T'es tombé sur des documents ou des artistes que tu connaissais pas. C'est incroyable de voir ça.
D'après ce que vous nous avez dit, d'après le titre des livres.
C'est des ouvrages de. Quand on s'intéresse aux images, c'est toujours les mêmes noms. Hein. Enfin, voilà, c'est pas non plus. C'est pas des thèses. Universitaire, quoi. Après, c'est des...
C'est de l'image.
C'est une pensée de l'image. Donc, voilà. Et ça, par exemple, tout ce qui était autour de notion de l'iconographie, même si je connaissais Warburg, même si je connaissais tout ça, il y a un livre que m'a fait découvrir Emmanuela sur les artistes iconographes que je ne connaissais pas. Et au final, tu vois, ça m'a rajouté un mot, quoi.
Alors, vous avez parlé de moine copiste. J'ai beaucoup aimé ce terme parce qu'il y a cette concentration. Et les moines copistes, je ne sais pas s'ils travaillaient en musique. Je ne sais pas s'il y avait des chanteurs.
Ah, mais toujours, je pense que si, parce que c'est les trucs des...
Ouais, ouais. De toute façon.
Après, il y a tout le truc des chants grégoriens, voilà, qui a été beaucoup repris par les minimalistes américains ou même par Arbopart, des gens comme ça, quoi. Donc, je pense que les moines copistes, on ne devait pas être loin de ce genre de trucs, quoi.
Et vous travaillez en musique en dehors de vos recherches?
Moi, je travaille à la radio.
Bravo. Ouais, voilà. Donc, vous ne choisissez pas, c'est ce qui passe à la radio.
Ouais, mais je travaille à la radio, pas de la musique, que des gens qui parlent souvent. Ah. Ouais, je suis quand même, je fais assez friand de podcasts, des trucs comme ça. Donc, et d'ailleurs, ça fait partie de mon travail de recherche.
Et ça nuit pas à la...
Quand on grave.
Vous arrivez à capter du. Ah oui, quand on grave.
Quand on dessine ou quand on grave ou quand on dessine des choses comme ça, ça permet de travailler même. Enfin, de travailler deux fois.
Alors, vous avez choisi une deuxième musique, donc on va l'écouter et vous l'expliquer après.
D'accord.
Alors, sur Radio Alliance Plus, toujours avec Emmanuel Astoron et Sylvain Fraisse. Alors là, vous avez choisi une de vos musiques.
Ouais, un morceau qui s'appelle Les Rougiers et qui a été enregistré en Aveyron, où chaque année, on part 4-5 jours avec des collègues faire du son. Et c'est une résidence, de la même manière. Quoi. On part sans savoir ce qu'on va jouer, juste avec du matériel pour enregistrer. Et c'est un morceau qui s'appelle Les Rougiers et qui a été enregistré avec mon ami plasticien également, Julien Cassignol.
Voilà. Mais vous, quand vous gravez, vous écoutez et après vous enregistrez et on revient au point de départ. C'est-à-dire la musique, elle est vraiment... fait partie intégrante de votre univers.
Ouais, ben en fait, ces analogies avec la gravure, Je les ai découvertes petit à petit, en fait, alors que c'est évident, alors que j'ai déjà imprimé des vinyles à la manière d'une plaque de gravure. Mais ensuite, ça s'est fait par la sémantique, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'analogies entre la gravure et le son, quoi, dans la manière de... Quand on dit « to record » en anglais, « recordar » en espagnol, c'est « se souvenir ». On grave des vinyles, enfin, on grave un disque. Donc, et en fait, c'est des choses toutes bêtes, mais souvent, c'est quand c'est le plus là qu'on ne les voit pas. Quand c'est le plus près de nous qu'on ne les voit pas, et c'est très souvent comme ça.
Mais que ce soit gravure ou vinyle, ça pose toujours la question de la mémoire. Et vos autres œuvres sur d'autres autres supports, est-ce que ça peut participer aussi à la mémoire? Est-ce que vous le mettez au même niveau que la gravure, que le son?
Ah oui, moi, enfin, le rapport à la mémoire et à l'oubli, à la perte, c'est quelque chose qui est comme je vous disais tout à l'heure, on tape toujours sur le même clou, quoi. C'est vraiment les mêmes, c'est les préoccupations qui sont, mais que j'ai pas choisi. Et voilà, c'est des trucs où on se rend compte petit à petit. On se dit, ben ouais, moi, je travaille sur ça.
Mais est-ce que vous pensez que toute personne justement qui vient voir vos expositions, inconsciemment, ils ont cette même questionnement, en fait, de l'oubli, de la mémoire, de la permanence, de... On dit souvent...
C'est là, imprégné quand même, ouais, dans son travail.
On a des livres, maintenant on met tout sur clé USB, qu'est-ce qui nous restera dans 150 ans ou 2000 ans? Peut-être aucun livre, parce que peut-être tout aura brûlé, mais je pense qu'il y a vraiment une question métaphysique de l'oubli, de la mémoire, de la transmission. Ça vous inquiète? Ça vous...
Ah non, moi, ça m'inquiète pas du tout. Non, mais je suis pas là. Moi, je suis pas là pour... je suis là pour poser des questions. Voilà, l'idée, c'est poser une question, mais c'est pas du tout de donner un jugement ou quoi que ce soit, quoi. Mais c'est quelque chose qui est présent depuis les années, enfin, je veux dire, depuis les années 80, on commence, Marguerite Duras parlait de ça.
Ouais.
Et après, je pense que c'est dans mon travail, c'est quelque chose de qui est de l'ordre du sensible, de ce qu'on si tant est qu'on puisse. Enfin, voilà, il faut se mettre en disposition de sensibilité. Enfin, c'est des pièces d'art, quoi qu'il en soit, de toute manière. Donc on a ce premier contact. Ensuite, il faut un peu, on peut pas prendre le public par la main, c'est à lui d'aller chercher des choses s'il est intéressé et s'il a envie de, c'est l'art contemporain, ça nécessite médiation de temps en temps, quoi. Après, il y a des pièces où on va avoir un vrai choc émotionnel, sensible, et une fois qu'on va comprendre, on va les trouver très mauvaises, et il y a des pièces qu'on va trouver très froides, et en fait, une fois qu'on aura lu le propos, on va se rendre compte que c'est un super boulot. Donc voilà, c'est une volonté aussi du regardeur de passer à côté ou pas, quoi. De faire l'effort ou pas.
C'est là où il y a tout, vous avez parlé de médiation, c'est là aussi où il y a toute la documentation. Et vous avez, on ne peut pas prendre le public par la main, mais on peut tout de même lui fournir des outils. Hein.
Oui,
et le centre de documentation, il est là. Parce que je pense que les résidences, elles ont tout de même suscité des curiosités. Enfin, c'est normalement ça que l'on doit faire. Et cette résidence-là, elle est vraiment dans la continuité de votre travail ou elle a apporté quelque chose de vraiment différent?
Elle est dans la continuité de mon travail théorique, ça c'est évident, quoi. Plastiquement, elle est en train de m'apporter beaucoup de choses.
Ouais.
Parce que ben là aussi, j'utilise un petit peu les moyens du bord, quoi. Et j'ai une relation avec la photocopieuse qui est en train de se...
Oui, vous nous en avez parlé.
Fait toujours cet effet.
Il y avait eu une résidence sur la photocopieuse et la copie machine. Et c'est vrai, en plus, il y a une dame qui a réagi, elle m'a fait rire, mais c'est vrai, j'ai un appareil qui enregistre les sons qu'on n'entend pas. Et donc, c'est vrai, et en fait, on est entouré de sons que l'on n'entend pas. Et en fait, vous avez enregistré la photocopieuse. Alors, pour vous, la photocopieuse, et on va terminer sur ça, elle est quoi? Elle est une technologie ou elle est au contraire un passeur
Ben, c'est moi qui m'intéresse beaucoup à la manière dont on produit et on diffuse des images, la photocopie, c'est le médium du livre, quoi. Ben, voilà, quand on veut se rappeler d'une page ou un truc comme ça, c'est
quand ça n'existait
premier...
pas.
Ben, quand ça n'existait pas,
il fallait
l'inventer. Il y avait Gutenberg, quoi. Donc après, on pourra revenir au son que le truc qui est de cette résidence, en fait, c'est que je recherche des images d'œuvres qui n'existent plus, donc des images de choses qui n'en sont plus là. Et ça me permet d'aussi enregistrer des sons qu'on n'entend pas, en fait, qui sont à leur place. Quoi.
Oui, donc, vous avez dit le néon.
Donc, et puis c'est une. C'est, vu que le point de départ quand même de cette résidence, c'est aussi l'ancien théâtre qui était là, c'est aussi une,
oui, c'est
une manière spectrale, quoi.
Ouais.
Une manière de d'interroger un lieu
qui a brûlé,
un petit peu singulière. Ouais. Ouais, ouais.
Oui, c'est vrai, vous avez commencé votre rencontre par ce thème. Oui. Là, et,
c'est le point de départ.
C'est voilà, le point c'est de le... départ. Et c'est vrai que là, on est au moins un, et c'est vrai qu'on se dit c'était les loges, c'était les coulisses, c'était
c'est ça.
Toujours ce côté de...
Ouais,
de...
et puis toujours cette espèce de truc que l'art a besoin de la destruction, quoi.
Ouais. Pour se renouveler.
Ouais, pour exister.
Mais merci beaucoup, Sylvain Fraisse. Merci beaucoup,
merci.
Emmanuela. Donc, la prochaine rencontre, c'est le 25 juin à
18h30.
Et puis pour le mois de, d'octobre, vous nous préciserez à moins qu'elle ait déjà...
C'est du 27 octobre au 13 décembre.
27 octobre au 13 décembre. Ok. Eh bien, merci à tous les deux.
Oui, merci.
Bonne fin de résidence.
Merci.